This is the Humans Link Audio Experience.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin Frêne, j'espère que vous allez super bien et bienvenue sur le live Humans Link post-café ce matin. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rejoints. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez. Si vous êtes en Guadeloupe, au Canada, en France. Donc, comme je le rappelle chaque jour, l'objectif de ce rendez-vous et l'objectif de Humans Link est de construire les organisations et le monde dont l'humanité a besoin. On est convaincu que la force de l'humanité, de chaque être humain, est son adaptabilité et sa résilience. C'est pourquoi nous choisissons de nourrir le lien humain et de favoriser l'entraide et la solidarité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de santé, de médecine alternative et de bien d'autres choses, vous allez voir. Et pour ce faire, je vais accueillir Claire et Linda. Bonjour mesdames, comment allez-vous?
Bonjour.
Bonjour Valentin, bonjour Linda. Bonjour, tout va bien.
Super.
Heureuse d'être là.
Il y a Lydia Bazir qui nous dit bonjour de Petit-Bourg en Guadeloupe. Bonjour Lydia, j'espère que tu vas bien. Dites-nous, n'hésitez pas en commentaire, dites-nous d'où est-ce que vous nous écrivez. Aussi, pendant tout le long de ce live, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Il y a Jean-Luc French qui est dans l'espace commentaire pour vous. Donc, je vous encourage tous à écrire là-dessus. Donc, Claire, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots?
Mais oui, avec plaisir. Alors, Claire Bourlan, je suis naturopathe. Donc mon travail, bien, ça consiste en fait à accompagner des personnes sur leur chemin de santé, à leur expliquer quels sont les mécanismes de la maladie pour qu'ils puissent être autonomes dans leur chemin de santé, qu'ils puissent comprendre ces mécanismes afin de pouvoir gérer justement leur bien le plus précieux, je dirais, hein, qui est leur santé. Donc ça peut être des personnes qui sont tout simplement en quête de savoir comment entretenir leur santé. Donc santé, on parle de la santé qu'on connaît tous généralement, mais en naturopathie, on parle de santé globale, tout comme en Ayurveda, Linda. Et ça peut être aussi des personnes qui sont en cours de maladie et qui ont des traitements, parfois lourds, et que j'accompagne également. Voilà, donc c'est un rôle de guide et d'accompagnateur. Je ne guéris pas, mais j'aide le corps des personnes à se guérir et à être autonome.
Voilà, donc toi, vis-à-vis Claire, de leur santé. Tu es en Guadeloupe en ce moment ?
Oui, oui, je suis en Guadeloupe, je vous parle depuis Nogent-Sainte-Rose, voilà.
D'accord, super, merci beaucoup. Et Linda, est-ce que tu veux te présenter?
Ben, moi, c'est Linda, je suis praticienne en médecine ayurvédique. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la médecine ayurvédique, c'est le système de santé le plus ancien qui existe de nos jours. Et c'est un système de santé qui nous vient de l'Inde, mais qui a pour but de permettre l'équilibre de tout un chacun sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, elle est considérée comme étant une médecine dite holistique. Mm-hmm. Et c'est une médecine aussi qui nous reconnecte à la nature. Et j'aime bien dire qu'elle nous reconnecte à notre nature intérieure, parce qu'elle considère que nous sommes tous uniques, on ne peut pas tous fonctionner de la même manière, et également à la nature qui nous entoure, à notre environnement. Donc, l'Ayurveda considère qu'un individu qui est en bonne santé, c'est un individu qui arrive à créer l'équilibre entre sa nature et la nature qui l'entoure. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est à tous les niveaux, sur le plan physique, mental et émotionnel. Parce qu'on peut avoir un corps physique, entre guillemets, sain, et avoir un mental agité et un cœur rempli de mauvaises émotions. Là, selon l'Ayurveda, on n'est pas en bonne santé. Et pour aider les gens à être en équilibre, l'Ayurveda accompagne à 5 niveaux. On a 5 grands axes thérapeutiques qui sont l'alimentation, les conseils en alimentation, des conseils en hygiène de vie adaptés à l'individu, des préparations médicinales. On a aussi des soins corporels et des conseils en ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, mais ce sont toutes les techniques qui vont nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes. Voilà, en gros.
Bon, mais super, on va pouvoir creuser dans ça, aller plus en profondeur et découvrir vos expertises. Ce qui m'intéresse ici, ça m'interpelle, c'est qu'on a parlé d'autonomie d'un côté, en naturopathie, de pouvoir rendre les gens autonomes, et en médecine ayurvédique, Linda parle d'équilibre. Pourquoi vous pensez que c'est important en ce moment? Claire, est-ce que tu veux répondre?
Mais en fait, je disais tout à l'heure, quand on était entre nous, là, avant de commencer, nos techniques se rejoignent, puisque la santé, c'est quelque chose évidemment qui est global. On est des êtres de chair, mais on est aussi des êtres spirituels, on est des êtres qui avons des émotions, donc on est fait de tout ça. Et l'autonomie, elle est importante parce que on est dans un contexte souvent d'assistanat. Et c'est dommageable, évidemment. Ça nous a, alors je vais prendre un grand raccourci, mais ça nous a conduit au contexte actuel aussi, cette façon de vivre. Et on est complètement, ce que disait Linda tout à l'heure, on est complètement déconnecté en fait de là où on vient, de la nature. Nous sommes des êtres issus de la nature, et du coup, on a perdu notre essence d'une certaine façon. Donc, on a perdu aussi notre autonomie parce que on sait même plus comment fonctionne notre corps. On comprend pas pourquoi. Alors je vais commencer par des symptômes de base, hein, des boutons. Pourquoi on a des boutons? Pourquoi on se sent pas bien? Pourquoi on a mal à la tête? Pourquoi on a une colique? Pourquoi on a un rhume, etc. Et on pense que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça vient forcément de l'extérieur, dans la compréhension commune. Et nous, on y est forcément aussi pour quelque chose. Le corps n'est pas un organisme stupide, il est très intelligent. On a, malgré toutes les études scientifiques qui sont menées aujourd'hui, on n'arrive toujours pas à comprendre fondamentalement son fonctionnement. Et on a perdu cette autonomie par perte de connexion avec nous-mêmes, avec nos ressentis. Et on ne fait plus les liens entre ce qui nous arrive et ce qui nous a mené à ce qui nous arrive.
J'entends et je
On est
t'entends.
des êtres désadaptés, en fait, hein. On a perdu notre connexion avec nous-mêmes et puis avec notre essence divine aussi.
Je vois Linda qui acquiesce. Est-ce que tu veux réagir?
Oui, mais tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, l'autonomie, mais le but de l'Ayurveda, quand je dis de se reconnecter à sa propre nature intérieure, c'est vraiment reconnaître déjà son individualité, mais c'est aussi faire confiance à cette nature intérieure. Et ce que j'appelle nature intérieure, c'est faire confiance au fonctionnement naturel du corps, parce que le corps, mine de rien, il est
Exactement.
intelligent. J'aime bien, alors Claire a dit qu'on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose nous arrive, mais je vais aller à la source. On ne comprend même pas comment notre corps fonctionne ni comment il s'est développé. Moi, je suis pour qu'on éduque beaucoup les gens à savoir comment le corps s'est développé, comment il a fait pour être au stade où il est aujourd'hui. Très peu de personnes prennent conscience que le corps humain, c'est un spermatozoïde et un ovule qui ont fusionné et qui ont donné une première cellule. Et à partir de cette cellule, elle s'est développée pour donner le corps humain que nous avons, qui contient à peu près 10 milliards de cellules. Donc, ce qui montre que cet organisme vivant géant est doté d'une intelligence. Il n'avait pas besoin de quelqu'un qui dise, voilà, mets le foie par là, mets le poumon là, le cerveau va là, là c'est la peau. Il sait gérer tout seul. Ça veut dire qu'un corps humain, il est en capacité de maintenir son équilibre, si on le laisse faire, si on l'écoute, si on lui fait confiance. Mais on a été tellement formaté par la société. Alors, je fais une différence entre la nature qui nous entoure, c'est-à-dire tout ce qui existe au-delà de l'homme, et la société. La société a été inventée par l'homme, par les humains, dans le but de contrôler, de maîtriser l'autre. Donc, la société a mis en place, par exemple, il faut se lever à telle heure, faut manger à telle heure, il faut aller travailler à telle heure, il faut rentrer à telle heure, il faut faire ça en telle année, il faut se marier, il faut faire. Vous voyez, il y a des choses, on est conditionné. La nature vous a donné la vie et en fait, elle vous dit vie. Voilà. Mais on est complètement déconnecté de comment notre corps, lui, il fonctionne. Et j'aimerais bien, dans l'avenir, en tout cas, j'y travaille dans mon cabinet, c'est d'encourager les gens à développer ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. une fois qu'on arrive à s'écouter, une fois qu'on arrive à entendre ce que le corps, ce que le cœur et ce que le mental dit, à ce moment-là, on peut aspirer à être autonome dans le but d'être en équilibre. C'est comme ça que moi, je le vois.
D'accord. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, on a Claire qui nous dit, mais rappelons-nous que nous sommes la nature, nous sommes issus de la nature. Et Linda qui nous parle du nombre de cellules qu'on a dans l'organisme et de l'intelligence quelque part du corps. Et c'est vrai, ça fait... Les premières cellules seraient apparues il y a environ 4 milliards d'années. Et l'homme est beaucoup plus récent dans l'échelle de l'existence. Donc, c'est quelque part, la nature a fait un travail de recherche et développement incroyable. La R&D, sur une période de temps qui est imbattable, finalement. Et donc, le corps a évolué sur ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui, on parle de médecine alternative? Et pourquoi c'est important aujourd'hui? Et pourquoi vous pensez qu'il y a autant de peut-être de tabous presque ou de sceptiques autour de la naturopathie, de l'ayurveda, puis d'autres médecines alternatives? Est-ce que Linda, tu veux répondre?
Il n'y a pas de souci. Alors, moi, j'ai un peu de mal avec le mot médecine alternative parce que alternatif, ça veut dire qui remplace. J'ai fait mes études en Angleterre et en Angleterre, en fait, on parlait de médecine complémentaire, c'est-à-dire une médecine qui va en fait rajouter quelque chose en plus de la médecine moderne. Et je suis plus pour qu'on puisse promouvoir cette terminologie parce que mon rêve, c'est qu'un jour, on puisse travailler main dans la main la médecine moderne avec les médecines dites douces, donc les futures médecines complémentaires. Je dirais que ça a à voir avec les mentalités, puisque là où j'ai étudié, en Inde et dans beaucoup d'autres pays, en Angleterre, en Inde et dans beaucoup d'autres pays, on parle vraiment d'intégrer les deux médecines. J'ai étudié la médecine ayurvédique à l'université et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en France. Donc, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Je suis pour qu'on puisse promouvoir les choses, mais de manière réglementée. Et je pense que c'est ça le gros souci en France, c'est qu'il n'y a aucune réglementation autour des médecines dites douces et alternatives, comme vous l'avez dit. Et ça fait que tout un chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et donc, ça veut dire aussi partir dans des dérives. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va superviser les formations des thérapeutes. Donc, comment on fait pour garantir qu'un thérapeute est bien formé? Quand on parle de médecine, on parle d'une science qui s'adapte à un corps humain. Un corps humain, ce n'est pas rien. C'est un corps qui est vivant, qui est changeant. Donc, il faut pouvoir, moi, je pense, avant de diplômer en fait, un thérapeute, c'est important d'avoir des stages pratiques avec l'humain. Comme on fait avant d'avoir un diplôme en médecine, en fait. Donc, c'est de faire beaucoup d'applications sur l'humain. Maintenant, je vois beaucoup de choses qui passent en ligne. Quand on voit un certificat de médecine chinoise ou de médecine ayurvédique en ligne, comment quelqu'un qui fait un cours avec 5 modules en ayurveda ou en médecine chinoise ou, je ne sais pas, en naturopathie, fait pour avoir la prétention de dire que je vais soigner ou aider quelqu'un? Moi, je dis qu'il faut apprendre à penser et à réfléchir. Il faut certes mettre les choses, les médecines traditionnelles, les médecines alternatives en avant, mais pour être crédible face aux médecins, pour avoir beaucoup de force et pour qu'on puisse être entendu, il faut qu'on fasse, on soit bien rodé, bien formé et montrer qu'on est compétent, je pense.
Oui, j'entends, il y a un besoin d'aiguiller les gens, justement. Alors, merci de faire la distinction. La précision sur la médecine alternative versus la médecine complémentaire, effectivement, je pense que c'est une précision à faire qui est peut-être plus juste, parce que comme Claire nous le disait tout à l'heure, la naturopathie, ce que tu nous disais, Claire, dans ton accompagnement, c'est que tu n'es pas là pour soigner nécessairement, mais pour accompagner le corps à la guérison, et tu as une approche qui est plus globale.
C'est surtout que c'est bien comme ça que ça se passe. On n'est pas des guérisseurs, on ne le sera jamais. C'est le corps qui aura toujours le dernier mot. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui sont atteintes de maladies très graves et qui s'en sortent, et d'autres personnes qui sont atteintes de ces mêmes maladies très graves et qui ne vont pas s'en sortir. Donc, il y a un terrain dont on parle beaucoup en naturopathie, qui est le milieu dans lequel vivent nos cellules. Et à partir de ce terrain et de l'épigénétique, eh bien, on détermine un état de santé. Mais ce que je voulais pas vraiment partir là-dessus, je voulais juste rebondir sur ce que disait Linda. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une génération de peupeutes, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de thérapeutes. Moi, je le comprends parce que c'est très intéressant, tout ce domaine de la santé. C'est une manne aussi, c'est vrai. Au sein de la naturopathie, c'est pareil. Les formations ne sont pas équivalentes, bien évidemment. Il y a une conscience professionnelle à avoir, ça c'est très important, pour être crédible aussi. Il y a l'expérience et puis il y a une façon de travailler, parce que c'est vrai que la naturopathie, ça peut s'entendre de différentes façons. On parle de naturopathie orthodoxe, qui est la naturopathie originelle, et puis il y a une naturopathie qui consiste à faire de l'allopathie verte. C'est-à-dire que tu as tel problème de santé, on va te donner telle plante, tel complément alimentaire, sans te faire prendre conscience. Alors, il ne s'agit pas de jouer les montreurs de leçons, etc. Ce n'est pas ça, c'est justement d'apprendre à la personne à faire les liens entre son état de santé et quelle est la conduite, quels sont les mécanismes qui l'a amené sur ce chemin-là. Alors, si je donne un complément alimentaire comme ça, sans rien expliquer, je ne fais pas mon boulot. Je fais de l'allopathie verte. Ouais. Voilà.
Je pense que c'est ce que Linda, quand elle parlait d'intelligence intuitive.
Donc après. J'ai juste terminé, Linda. Et dire que c'est important de vraiment prendre conscience de ça. Et le corps est capable de se réparer, comme le disait Linda tout à l'heure, si on le laisse tranquille. Donc, des fois, il n'y a même pas besoin de donner de complément. Et parfois, donner un complément va à l'encontre même de l'état dans lequel se trouve le corps. Et on peut fatiguer encore plus, épuiser encore plus un organisme, voire le dérégler, parce qu'on n'a pas compris comment fonctionner. On fait, enfin, tout comme un Ayurveda, nos études nous amènent à comprendre l'anatomie, à comprendre la biologie cellulaire. Et tous ces domaines-là sont vraiment très, très importants pour comprendre ce fonctionnement du corps. Voilà. Et c'est vrai que toutes les formations ne sont pas équivalentes, c'est certain.
Linda, tu voulais réagir ?
Oui, c'est quand elle parlait d'éduquer l'individu, je suis très pour ça, parce que pour moi, c'est quand l'individu est responsable de lui-même, quand il sait, quand on l'a éduqué, quand il apprend à prendre conscience qu'il est, excusez-moi, responsable de chaque action qu'il fait. Le fait de responsabiliser l'individu, pour moi, c'est déjà la première porte vers la santé. Et si on n'apprend pas à faire ça, tout à l'heure, Claire l'a dit, on est vraiment dans un système qui nous apprend à dépendre de l'autre. On est obligé d'aller voir un médecin pour comprendre ce qui se passe dans notre corps, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Or, quand vous regardez dans la nature, regardez les animaux se gèrent tout seuls, individuellement. Il n'y a pas un médecin animal, un médecin chien ou un médecin chat. Ils savent intuitivement ce qu'ils doivent faire. Et ensuite, on veut nous faire croire que nous sommes la race, enfin l'espèce la plus intelligente. Mais on n'arrive pas à se gérer seul. Et souvent, je rebondis sur un exemple qui est très courant. Les femmes ne savent même pas accoucher seules. C'est grave, ça. Ça, c'est un truc qui m'a toujours choquée. Une femme, normalement, intuitivement, sait ce qu'elle doit faire pour mettre au monde un enfant. Mais c'est qu'on l'a tellement conditionné, on a très peur. Et là, c'est intéressant de parler de la peur, parce que c'est la peur qui régit et c'est la peur qui nous éloigne, en fait, de notre intelligence intuitive. C'est la peur qui nous éloigne de la nature, parce qu'on ne peut pas contrôler la nature. Quand on perd le contrôle, que ce soit de soi ou d'autres, c'est qu'on rentre dans la peur. L'homme a toujours besoin de contrôler tout. Parfois, il faut faire confiance.
Donc, j'entends l'importance d'équiper, dans le sens éduquer les gens à savoir faire la distinction entre les différentes solutions, les différents outils qui sont à notre disposition. J'entends aussi que c'est important que chacun puisse être acteur de sa vie et responsable. Et j'entends par là, vous avez parlé d'intelligence intuitive. Et donc, c'est peut-être de comment se reconnecter à soi, comment acquérir cette intelligence intuitive quelque part. Et ça, ce serait un. Et la deuxième partie, c'est une question qui, à mon avis, plusieurs personnes pourraient se poser. C'est pourquoi un médecin va faire autant d'années d'études, alors que ce que j'entends ici aujourd'hui, c'est que intuitivement, vous dites qu'on pourrait se soigner et ne pas avoir besoin de médecine. Alors, je pose la question volontairement dans ce sens. Est-ce que, Linda, tu veux réagir ?
Pourquoi faire autant d'années d'études ? Parce que je suis passionnée par cette discipline, numéro un. Et il faut savoir que dans l'histoire, en fait, de l'Ayurveda, il y a une petite histoire sur la création de l'Ayurveda. Et l'histoire, en fait, raconte que l'humanité était vraiment malade et était en train de souffrir énormément. Et il y a des sages qui ont prié pour recevoir, en fait, les solutions. Donc, l'humain, à la base, possède cette capacité à se régénérer, à fonctionner seul. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment donné, la peur est apparue et on commence à fonctionner en s'éloignant en fait de cette nature, en s'éloignant de son corps. On commence à écouter ce que l'autre dit. Plus on écoute ce que l'autre dit, et quand je dis l'autre, on rentre maintenant dans la société, dans les habitudes, dans les coutumes, dans les règles de vie. Et plus on rentre dans un système qui n'est plus naturel, plus on se déséquilibre. Donc, on a besoin, quand on regarde comment le monde va aujourd'hui, il suffit d'observer, l'humanité a besoin de personnes qui guident, qui rééduquent, qui réapprennent. Et j'ai envie de dire que maintenant, on a en face, je ne vais pas dire un ennemi, mais on a en face un gros colosse, c'est la médecine moderne, qui va tout de suite demander à justifier, à expliquer. Donc, au cours de mes études, moi, j'ai fait beaucoup d'anatomie, de physiologie, de pathophysiologie, de pharmacopée, de pharmacologie. Donc, je suis relativement bien rodée. Quand je tombe devant un médecin, je suis capable de lui expliquer ma démarche, pourquoi je le fais et quelle est la logique derrière pour qu'il puisse comprendre. Même si on parle de langages complètement différents, moi, quand je parle d'Ayurveda, je parle d'air, d'espace, d'eau, de feu. Ils ne vont pas comprendre ce que je raconte. Mais j'arrive, en fait, à m'adapter à leur langage pour expliquer qu'il y a une certaine logique derrière ce que je fais. Et la première question, c'était quoi ?
En fait, la question... D'abord, merci pour ta précision. La question est aussi sur pourquoi un médecin va faire autant. Un médecin, sous-entendu, médecine traditionnelle, entre guillemets.
Allopathe.
Ah, d'accord.
Ce que tu appelles le gros colosse de.
Donc, je pense qu'on n'a pas le même objectif. Un médecin, lui, il est là pour soigner des maladies. Il est là pour. Pouvoir reconnaître quand il y a une maladie dans le corps de quelqu'un et soigner la maladie. Tandis d'accord. que nous, je pense que Claire sera d'accord, on est plus en train de soigner l'individu.
Fait, non, on s'occupe de la santé, en fait.
Voilà, on promouvoit le positif, en fait.
Je pense que c'est important
à faire cette distinction
parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller vers c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a des alternatives, comme on parlait au début. Et c'est pour ça qu'on parle de médecine traditionnelle et de médecine alternative. On parle de symptômes, de maladies. Claire, est-ce que tu peux nous aider peut-être clarifier en fait, une bonne fois pour toutes ouais. pour les gens qui nous écoutent ? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là.
En fait, comme le disait Linda, l'idéal, c'est la jonction des disciplines. Parce qu'on est complémentaires. Évidemment, bon, pour prendre le contexte actuel, une personne qui va être en difficulté respiratoire, on ne va pas lui dire « prends des huiles essentielles », on va lui dire « va à l'hôpital, va voir ton médecin », parce qu'on ne va pas pouvoir répondre, on n'a pas de respirateur artificiel, on n'a pas tout ça. Donc, il y a la médecine, pour prendre des grands raccourcis, il y a la médecine d'urgence, à laquelle je ne vais pas parler pour Linda, mais la naturopathie ne peut pas répondre. Il y a tout un, je dirais, ce qui précède les maladies chroniques, les maladies dégénératives, dont nous, naturopathes, praticiens ayurvédiques, nous pouvons nous occuper parce que, justement, c'est ce qui précède. Normalement, on devrait pas rencontrer des personnes dans les états dans lesquels on les rencontre. Mais en fait, on est un petit peu, je dirais, pas la dernière roue du carrosse, mais parfois un peu si. C'est-à-dire que, bon, ben, mon Dieu, je ne sais plus où aller. Donc, j'ai fait le tour et voilà, je viens de voir parce que je n'ai pas trouvé de solution à ce que je vis. Ça fait des années que j'ai… je pense à une jeune fille dernièrement, là, pendant le confinement, que j'ai eu en consultation caméra interposée, qui a des vomissements depuis 3 ans. Biopsie, estomac, examen de l'œsophage, on ne trouve pas. Et on a trouvé la solution ensemble. Alors, c'est pas moi. C'est en discutant, en analysant, en écoutant la personne, en utilisant d'autres techniques. Ça ne veut pas dire que la médecine a été impuissante, mais on n'a pas les mêmes façons d'aborder les choses. Et évidemment que les médecins ne sont pas forcément non plus responsables. On ne va pas non plus leur jeter la pierre. Ils sont dans un système où on les forme d'une certaine façon. Parce qu'il y a des visées politiques, économiques, financières, et voilà, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même contexte, voilà. Donc ça, c'est pour répondre. Mais en tous les cas, on est complémentaires. Et il y a des médecins aujourd'hui qui sont équipés. Enfin, je vais dire des médecins. Moi, j'en connais un en Guadeloupe qui est équipé de physioscan, qui s'intéresse à une autre, qui a une vision plus ouverte, je vais dire, de l'individu. Et ça commence à se faire. Mais c'est vrai que c'est poussif.
Il y en a beaucoup, de plus en plus, en fait.
Il nous faut partager ces choses-là. Il nous faudrait nous rencontrer, même. Et pourquoi pas, Valentin, faire demain, hein, je dis demain avec des guillemets, une émission où justement on se réunirait et on pourrait échanger sur un thème entre médecins et praticiens de santé, de médecine complémentaire, pourquoi pas, hein, c'est
100%.
Il nous faut franchir ce pas-là.
Ben, en fait, juste une petite précision, j'ai créé une association il y a 2 ans qui s'appelle le GMTCI, le Groupement pour les médecines traditionnelles, complémentaires et intégratives, et on a déjà commencé à réunir en fait. Les personnes qui font des médecines dites douces et le corps médical. Donc, le souci, en fait, c'est que moi, j'ai créé l'association dans le but de développer des réglementations. Et ce n'est pas juste pour rencontrer, pour faire des échanges, mais c'est vraiment pour aller vers des…
Vers un autre voilà. Modèle, quoi.
Voilà, ouais, parce qu'il y a quand même, il faut le préciser, il y a de plus en plus de médecins allopathiques modernes, en fait, qui s'intéresse à cet aspect complémentaire des médecines dites douces. Donc, il faut quand même reconnaître ça.
Linda, si jamais les gens voudraient en savoir plus sur cette association, est-ce que tu peux nous rappeler le nom ? Est-ce qu'il y a un site web sur lequel on peut aller ?
C'est la page Facebook GMTCI, Groupement pour les médecines traditionnelles, complémentaires, intégratives.
D'accord. On va aller chercher ça, je vais pouvoir vous afficher ça à l'écran.
Ça, c'est la magie du direct.
Voilà. Exactement.
Mais c'est bien, comme tu as dit, Claire, que en fait, voilà, c'est cette page-là. En fait, la médecine moderne, elle va pas chercher à comprendre le processus de développement de la maladie. Ils vont chercher à soigner les symptômes. Donc, à partir du moment où la personne n'a plus de symptômes, ils vont être contents. Tandis que les médecines dites douces, les médecines complémentaires, elles cherchent à comprendre d'où vient ce mal. Qu'est-ce qui a créé ça? Quel est le cheminement? Et en fait, on cherche à aller, en tout cas pour l'Ayurveda, on cherche à aller jusqu'à la racine du problème.
Bah, la cause des causes des causes.
Voilà. Et de faire en sorte de l'éliminer quand c'est possible, quand c'est encore possible. Parce que selon la chronicité du problème, il arrive des moments où on ne peut plus rien faire. Mais l'Ayurveda met vraiment l'accent sur la prévention. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans notre système. C'est quand on a déjà un problème, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ?» On ne parle jamais de « Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas tomber malade ?»
Alors justement, c'est vers ça que je voudrais aller aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y aurait peut-être en deux aspects, tout d'abord des idées fausses qui sont généralement répandues quand il s'agit de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé. Et en deuxième temps, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire dans une période de confinement pour s'assurer d'être responsable et de prendre soin de sa santé globale? Est-ce que Claire, tu veux commencer?
Eh bien déjà, on va parler de l'alimentation parce que c'est un des piliers de notre santé. Le confinement amène certaines personnes à des conduites alimentaires qui étaient déjà en place en fait avant le confinement, mais qui se sont amplifiées du fait du confinement. Donc on sait qu'il y a un rapport affectif à l'alimentation et que ben on va être plus attiré par des produits sucrés parce que c'est réconfortant, parce que ce sont des doudous alimentaires, on va dire. Donc effectivement, il y a des choses à revoir sur le plan de l'alimentation, ça c'est sûr. Parce que c'est 3 fois par jour minimum qu'on se nourrit. On n'est pas obligé de se nourrir autant, mais on se nourrit parfois trop, souvent trop.
Culturellement, oui, c'est dans la routine aujourd'hui. Petit déjeuner, déjeuner, bah, dîner, avec ça, un goûter c'est parfois.
C'est culturel, mais c'est surtout que ça, quand on a le ventre plein, et on réfléchit moins. Donc, ça compense des émotions, justement, aujourd'hui, qu'on rencontre de plein fouet dans nos vies de confinés, pour certains. Et c'est une des grandes bases de ce que l'on vit aujourd'hui, en fait, ce problème d'alimentation. Donc, il faut changer cette alimentation qu'on a. Voilà. Pas seulement pour des raisons de santé, mais pour des raisons aussi économiques, pour des raisons locales aussi, parce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a le docteur Henri Joseph qui en parle assez souvent, hein, justement, de cette consommation de produits locaux. Et il nous faut regarder qu'est-ce qu'on va faire si demain on se retrouve dans la nature avec la végétation qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va trouver des hamburgers dans les arbres? Est-ce qu'on va trouver des bouteilles de Coca-Cola dans les ruisseaux? Bon, c'est très schématique, ce sont des grands raccourcis, mais il faut nous rapprocher de ce qui correspond à notre nature. Bon sang. Mais
c'est vrai qu'aujourd'hui on
a de la chance en Guadeloupe parce qu'on a alors il y a plein de petits agriculteurs qui se sont mis à livrer dans des quartiers. On peut trouver des légumes, on peut trouver des fruits, on a cette chance là donc il nous faut nous rapprocher d'une nourriture qui nous correspond, d'une nourriture saine. Ça c'est très important parce que quand on mange des aliments qui sont faits pour nous, on va entretenir notre santé, ça c'est sûr, mais on va aussi vibrer autrement. On va être en résonance avec la nature, justement, celle de laquelle on est déconnecté depuis un certain temps. Et si on se nourrit de choses qui nous correspondent, nos pensées vont aussi être en lien avec un certain état vibratoire. Alors ça peut paraître un peu nébuleux ce que je dis là, mais tout est lié. Et l'alimentation qu'on nous propose aujourd'hui, elle n'est pas faite pour nous et elle nous rend malades. Les maladies que nous avons aujourd'hui, ce sont des maladies de civilisation. Ça veut dire que ce sont des maladies qui n'existent pas là où il n'y a pas la civilisation. Ce sont des maladies qui sont créées par nos modes de fonctionnement. On a affaibli nos systèmes, on a affaibli nos corps, on a affaibli notre système immunitaire par une alimentation qui ne nous correspond pas.
Donc j'entends bien, Claire. Donc tu parles de plusieurs éléments. J'aimerais qu'on puisse revenir sur chacun d'eux. On a commencé par parler d'idées reçues, d'idées fausses quelque part. Et tu parlais de l'importance de l'alimentation et qu'en période de confinement, on a des doudous alimentaires. Et tu parlais aussi de l'importance, les conséquences quelque part de nos comportements à l'égard de l'alimentation et des conséquences que ça a sur l'économie. Et ça me fait penser à ce que Linda disait tout à l'heure sur créer un équilibre avec son environnement interne, mais aussi être en accord avec son environnement externe. Du coup, Linda, est-ce que toi, tu as remarqué à travers ta pratique de ton métier, des idées fausses, des idées reçues que les patients que vous voyez, Claire et Linda, pourraient avoir. Et j'aimerais, après avoir répondu à cette question-là, qu'on aille sur vraiment des conseils pratiques ou des habitudes dangereuses qu'il faudrait supprimer Linda, je te laisse répondre.
Alors, des fausses idées, je ne vois pas trop, je vois pas trop. Mais je vais rebondir sur ce que Claire a dit.
Bien sûr.
En Ayurveda, on recommande de manger ce qui existe dans notre environnement immédiat parce qu'on considère que la nature est intelligente, notre corps est intelligent, mais la nature qui nous entoure est intelligente également. Mmh. Lorsqu'on vit dans un environnement, la nature nous donne les fruits et légumes qu'il nous faut pour survivre dans cet environnement. Donc, quand on vit en Guadeloupe, on n'a pas les pommes et les poires et les raisins et tout ce qui sont sous des kiwis et je ne sais pas quoi qu'on trouve en métropole. Et donc, ça voudrait peut-être dire... Oui, mais ça voudrait peut-être dire que ces aliments qu'on trouve donc, dans certaines grandes enseignes ne sont peut-être pas adaptés à notre survie dans, ici, en Guadeloupe. Donc, lorsqu'on parle de prévention, l'alimentation doit être adaptée à là où on vit.
Donc quand on dit consommer local, ce serait plus qu'une simple démarche
alors,
de solidarité.
Moi, je parle, quand je dis consommer local, ce n'est même pas pour l'économie de la Guadeloupe. C'est vraiment pour être en accord et en
par
équilibre avec
logique,
votre corps. C'est vraiment pour être bien pour votre corps. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les aliments, ce qu'on mange en fait, c'est comme de l'information pour permettre à nos cellules, à nos organes de s'ajuster. Donc, ce qui nous entoure va donner beaucoup d'informations au corps pour qu'il puisse s'adapter par rapport, par exemple, à la densité de, je ne sais pas moi, l'humidité dans l'environnement. On est quand même une île. Il fait beaucoup plus humide ici que quand vous allez en métropole. On est entouré d'eau salée. La température est plus ou moins constante. Ben, quand on mange les aliments qui nous entourent, ça va aider à maintenir l'équilibre du corps par rapport à son environnement ici. Ça, c'est déjà une première chose. Quand on parle de prévenir la maladie, et je vais mettre l'accent sur les défenses immunitaires, en Ayurveda, les défenses immunitaires ne passent pas par les plantes médicinales. Là, avec le confinement et tout ce qui se passe, les gens ont commencé à bombarder beaucoup de choses sur les plantes médicinales. Et j'aimerais repositionner les choses. Ce qui construit les défenses immunitaires, c'est l'alimentation. Parce que c'est l'alimentation qui va régénérer vos cellules. Ce sont vos cellules, en fait, hein, qui vont vous défendre. Moi, je considère qu'on est constitué d'une garde rapprochée. Et il faut renforcer vos cellules. Donc, il faut manger des choses nutritives, de un. Donc, il vaut mieux éviter tout ce qui est transformé et raffiné, donc qui est dépourvu de nutriments sains. Claire a aussi parlé d'énergie. Donc, je ne sais pas si tu as dit énergie, mais moi, je vais parler d'énergie vitale. Quand vous mangez des choses, des produits frais qui n'ont pas voyagé, à ce moment-là, vous pouvez absorber dans ce que vous avalez l'énergie vitale. Ça va vous donner en fait plus de dynamisme. Quand vous mangez des aliments qui sont déjà raffinés ou morts, congelés, surgelés, ils sont déjà morts ceux-là. Hein. Ça ne vous apporte pas en fait justement cette énergie revitalisante dont on a tant besoin, surtout dans les périodes comme celles qu'on est en train de traverser. Donc l'alimentation va bien au-delà de juste avaler des choses. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour booster ses défenses immunitaires, il faut faire en sorte que le mental soit apaisé. Donc là encore, de la même manière, je vais d'abord parler du mental, de la même manière qu'on choisit le type d'aliments, les aliments qu'on va avaler, nous sommes aussi et nous avons la capacité de choisir le type d'information qu'on entend ou qu'on regarde, qu'on va absorber par nos cinq sens. Donc là, les médias vont nous bombarder de plein d'informations. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui le vivent très mal en fait, hein, tout ce qu'on montre dans les médias. Et je leur ai dit, mais vous êtes en capacité d'éteindre la télé, d'absorber autre chose. Tout à l'heure, avec Jean-Jacques, on a parlé de livres et de films. Moi, je trouve que c'est important d'aller choisir l'information qu'on intègre pour nous permettre de maintenir l'équilibre durant une telle période. Donc, il vaut mieux aller vers des choses positives. Et l'autre chose, comme Claire l'a dit tout à l'heure, il faut faire en sorte qu'émotionnellement, on soit fort et résistant. Quand on se retrouve confiné chez soi, c'est le moment où, tout d'un coup, toutes nos émotions qu'on a cherché à garder au plus profond de soi, à fuir, quand on est dans notre routine quotidienne, à s'occuper des enfants, du mari, d'aller au travail, de faire les courses, de revenir, on met un peu à côté toutes ces émotions et là, on a moins de choses à faire dans la journée. Toutes les émotions remontent. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, ce que l'Ayurveda dit, c'est de suivre le flot. Quand vous avez envie de pleurer, pourquoi vous voulez retenir vos larmes? Laissez couler. Ça fait partie du processus naturel. Et il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que quand un humain, quel que soit l'humain, quand un humain vient au monde, la première chose qu'il fait, qu'il sait faire, c'est pleurer et crier. Et La société nous a éduqués à ne plus faire ces choses-là. Pourtant, ça fait partie du processus naturel de la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il y a des émotions qui montent durant cette période, s'il vous plaît, ne projetez pas ces émotions sur des gens, ne projetez pas les émotions sur d'autres personnes, mais permettez à ces émotions de sortir de vous. Prenez un crayon, faites un dessin, allez planter votre tête dans un oreiller, criez un bon coup, pleurez, mais ne gardez pas l'émotion parce que garder l'émotion, c'est la refouler, c'est créer en fait un nœud. Vous êtes en train de produire une maladie pour le futur.
Voilà. Justement, ce que je... Merci beaucoup Linda. Justement, Claire, quand on parle des émotions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sentiments de peur et de stress en ce moment.
C'est ça le virus, hein. C'est la peur.
Et donc, mais il y a une vraie incidence ou pas sur l'organisme ?
Bien sûr.
Et sur le système immunitaire.
Évidemment, c'est... Alors, on parlait d'alimentation. L'alimentation entretient le système immunitaire. Nos états de pensée entretiennent nos systèmes immunitaires. Et effectivement, le fait d'être dans la peur permanente, puisque c'est ce qui est entretenu, et là, ça a pris une dimension plus, hein, avec ce qui est arrivé, puisqu'on a tellement eu peur qu'on n'a même pas eu le temps de réfléchir. On s'est tous retrouvés confinés au niveau mondial, quand même. C'est pas la Guadeloupe, c'est pas la métropole, c'est le monde entier. Donc ça montre bien à quel point on est dans une espèce de bulle de peur, quoi. Alors, comme disait Linda, évitez de regarder ou d'écouter la radio en boucle, évitez d'aller rechercher des émissions ou des chats ou des... Enfin, j'ai vu ce matin, il y a même des pages maintenant qui existent sur la mortalité dans le monde, dû au coronavirus. Enfin, il faut qu'on en mange du coronavirus, quoi. Ça, il y a pas, quoi. Donc, on est dans une espèce d'obsession, et évidemment que la peur agit sur nos cellules et nous fait baisser en tout. Elle nous plombe, littéralement. Donc, nous sommes des êtres vibratoires aussi. Nos cellules réagissent à la vibration des aliments. Elles réagissent à la vibration. On le sait, tout ça. Vous écoutez une belle musique, vos cellules, elles font la fête à l'intérieur. Elles sont heureuses. Vous êtes heureux.
Bien sûr.
Vous allez vous promener dans un bel environnement. Vous êtes en joie. Pourquoi vous êtes en joie? Il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes en communication avec cet environnement. Évidemment.
Mais...
Donc, comment dire? Oui, tu voulais dire, Valentin?
Non, j'allais dire, même si on n'a pas l'environnement, parce qu'il y en a qui sont en ville, il y en a qui ne sont pas directement dans la nature.
Ça, c'est vrai.
On a toujours le choix. C'est à nous de faire en sorte, là où on est, avec ce qu'on a, d'en tirer le maximum de positivité.
Effectivement, il faut être vigilant à ce qu'on met dans notre corps, ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on met dans notre tête.
Ce qu'on écoute.
D'ailleurs, on a Franck ici dans les commentaires qui nous dit « Je déconnecte de toutes ces infos négatives ».
Oui, t'as bien raison.
Et tout à fait, si vous vous sentez stressé, si vous avez de l'anxiété ou de la peur qui commence à monter, parfois, c'est même pas obligé d'attendre un certain niveau. Dès que vous commencez à ressentir ça, sachez que le stress et la peur affectent votre système immunitaire et vous rend moins performant.
Mais c'est surtout de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, cette peur. La peur vient en fait du manque de contrôle. On est tellement habitué à contrôler, et quand on contrôle, on pense qu'on est en sécurité. Mais là, on perd le contrôle parce que l'univers nous met dans un nouveau monde qu'on ne maîtrise plus, on ne fait plus ce qu'on avait l'habitude de faire, et on est privé de sortie. On est privé de voir les gens qu'on aime, on est privé de certaines choses. Là, on rentre en panique. Et j'ai envie de dire, en fait, en réalité, peut-être que c'est ça la grande leçon qu'on a à apprendre, on n'est peut-être pas en contrôle de tout ce qui se passe autour de nous, mais on est en contrôle de nous-mêmes. Ça, c'est notre seule responsabilité. Si on arrive à contrôler ce qui se passe chez nous, notre corps, notre être, peut-être qu'on va moins se ressentir la peur. Il faut travailler sur ça, je pense.
Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, nos modes de consommation, hein, on a parlé de toute la consommation, je ne vais pas reciter tout ce qu'on consomme, c'est ce qui nous a mené à la situation actuelle. On est entièrement responsable, alors je dis nous tous, hein, toute cette société mondiale, on est entièrement responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a intérêt à réfléchir aujourd'hui à la façon dont on vit, dont on pense, qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies individuellement, qu'est-ce qu'on a envie de faire collectivement, est-ce qu'on veut continuer à être confiné régulièrement, parce que c'est peut-être une possibilité, en tous les cas on en parle au niveau scientifique, est-ce que on a envie de sortir de là et d'être autonome aussi dans notre façon d'être au jour le jour. Donc ça veut dire choisir ce qui est bon pour nous dans tous les domaines, choisir ce qui nous correspond, ce qui résonne avec nous, réfléchir à ce que les choses nous apportent, à ce que quand on est en contact avec quelque chose, que ce soit un aliment, une personne, un environnement, une musique, un film, un bouquin, qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça me met bien ? Est-ce que ça me rend mal à l'aise ? Est-ce que toutes ces nourritures-là font ce que nous sommes aussi, et c'est ce que elles font ce qu'on va produire derrière. Donc si on se nourrit de choses qui ne nous correspondent pas, évidemment que la production ne va pas être en adéquation avec un monde plus vivant, plus constructif.
100%. D'ailleurs, il y a Sylvie Norbert en commentaire qui nous dit « Il n'y a pas de hasard là où nous vivons. Il existe les aliments nourriciers et médicinaux pour l'être humain, pardon, les animaux, la végétation et les minéraux. » Et on a aussi Nikki qu'on a reçu hier sur le live qui réagit en disant « Il est d'ailleurs conseillé de se nourrir le plus possible des aliments de notre environnement.
» D'ailleurs, les plantes médicinales qui poussent dans un environnement sont faites vraiment pour les personnes qui y vivent. C'est comme une logique, en fait. Ce que tu disais, Linda, tout à l'heure.
Bien sûr, Linda, vas-y.
J'allais dire, juste pour continuer, j'ai d'abord parlé de l'alimentation pour former nos défenses immunitaires. Donc, pour moi, quelqu'un qui, parce que je regarde sur Facebook un peu tout ce qui se passe, vous aurez beau prendre des plantes médicinales, si vous mangez des chips, des pâtes, du fromage, des trucs comme ça,
ça fonctionnera pas.
La plante médicinale n'aura pas tellement d'effet. Pour moi, une plante médicinale, c'est un bouclier. Mais un bouclier est utile à un soldat solide debout derrière. Et le soldat solide debout derrière, ce sont nos cellules. D'où l'importance de vraiment nourrir nos cellules. L'alimentation, c'est vraiment la première chose pour construire nos défenses immunitaires. Donc, il faut vraiment mettre l'accent, surtout dans cette période, surtout quand on va sortir du confinement, à mettre en avant des aliments qui vont vraiment nous nourrir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ceux qui poussent autour de chez nous, numéro un. Et une fois que vos cellules sont solides, je les appelle les soldats solides, à ce moment-là, si vous voulez renforcer vos défenses immunitaires, vous pourrez rajouter des plantes médicinales. Mais ça ne sert à rien d'avaler toutes sortes de plantes médicinales et que vos défenses, à la base, sont déjà faibles. Parce que même s'il y a un bouclier, il suffit que le vent passe, boum, votre soldat, il tombe. Donc, il faut bien comprendre ça.
Donc, d'abord, l'alimentation, c'est la base, c'est la fondation, c'est le socle solide. D'ailleurs, on entend beaucoup parler en ce moment de personnes qui vont utiliser l'application Yuka. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Non, je ne connais pas Yuka.
Alors, Claire.
Yuka, c'est un pis-aller, on va dire, parce que, en fait, Yuka, c'est basé sur le Nutri-Score. Donc, ce sont des données qui ne sont pas. Qui sont loin d'être idéales. On va dire que c'est une application où, quand on est dans un magasin, on va prendre le produit. Alors évidemment, pour pouvoir étudier le produit, il faut que ce produit soit dans une boîte. Est-ce que nous sommes faits pour manger des produits en boîte ? Bon, ça c'est une parenthèse. Et en fait, donc on va scanner ce code barre et ça va nous dire, voilà, ce produit, étant donné le nombre de calories, le nombre de produits chimiques qui sont dedans, le nombre de graisses, le nombre de sucres, il est très mauvais, il est médiocre ou je sais plus, enfin il y a trois qualificatifs, voilà. Donc, bon. Pour moi, c'est loin d'être quelque chose de satisfaisant. Et encore une fois, ce qui est dans une boîte, pour moi, c'est pas vraiment ce qui nous correspond. Ça peut de temps en temps être consommé, mais ça doit pas être quelque chose qui doit être une référence en tous les cas.
Moi, je recommande le plus possible de manger du frais. Moins l'aliment est transformé. Mais pas nécessairement vivant cru, mais en tout cas, moins les produits que vous allez consommer en fait vont être transformés, mieux ça sera. À partir du moment où vous avez des choses déjà pré-préparées ou emballées ou qui peuvent se stocker pendant très longtemps, là, on n'est plus dans quelque chose de nutritif, de nourrissant pour le corps, pour l'âme de l'individu. C'est quelque chose qui va remplir le corps et peut-être l'encrasser, mais on ne sera plus dans quelque chose qui construit les défenses immunitaires et qui nourrit vos cellules. En tout cas, moi.
On a Franck en commentaire qui dit « Je me ressource avec la nature. Pour se sentir bien en prenant des plantes médicinales et une alimentation fraîche, il faut avoir un transit en bonne santé, je pense. »
Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais on peut observer que de plus en plus, les gens retournent à des choses simples. Mais je suis plus pour la prise de conscience de l'importance, pas juste qu'on le fasse comme un phénomène de mode. On fonctionne beaucoup avec les phénomènes de mode, mais que ça soit quelque chose d'ancré et d'acquis pour chaque individu, que c'est important et c'est aussi notre responsabilité de consommer des produits frais, pas juste dans ce contexte-là.
On a beaucoup de personnes et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître là-dedans. On va pendant 2 semaines se dire « Ok, je fais un effort, je vais prendre soin de moi, je vais consommer soit local, soit je vais manger plus de produits frais, soit je vais ne plus manger de sucre. » Mais quelque part, après, l'habitude ne perdure pas toujours.
Et... Ça dépend. C'est dans la tête d'abord. Alors, moi, je vais donner un exemple. Dans ma vie de tous les jours, je suis à 70 à 80% d'aliments plutôt frais. Et le reste, en fait, du temps, c'est si je vais au restaurant. Donc, je me permets une marge. Ça m'arrive de sortir, ça m'arrive d'être invitée chez des gens qui ne font pas les mêmes choses que moi. Donc, mais quand je regarde, j'ai fait un choix et je me suis responsabilisée pour que le gros de mon alimentation soit basé sur des choses vivantes et plutôt fraîches, en fait. Donc, c'est un choix. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des écarts. Et je pense que c'est là l'erreur, c'est de chercher à imposer aux gens un régime strict sur une longue durée à vie. On est quand même dans une société et il ne faut pas non plus s'enfermer dans des trucs trop difficiles à gérer parce qu'après, derrière ça, ça crée une frustration qui n'est pas bonne pour la santé.
Comme Claire en parle au début, on a la nourriture doudou, comme elle disait. Quelque part, il y a une relation avec la nourriture qui est peut-être pas au bon endroit, et c'est peut-être là où il y a des idées fausses, des idées reçues qu'il faudrait.
Ce qui est intéressant quand on commence à manger une alimentation physiologique, c'est-à-dire qui correspond à notre organisme, il y a quelque chose quand même d'assez magique qui se produit, c'est qu'au fur et à mesure, on est de plus en plus attiré par ce type d'alimentation. Regardez ce qui se passe quand vous croquez dans un fruit. Dans une mangue bien juteuse. Je pense à la mangue parce que bon, c'est la saison. Et puis j'ai vu sur ta page, Linda, je trouvais ça très. Mais c'est vraiment la connexion. Enfin, tu as exprimé cette connexion avec la nature. Regardez ce que vous allez ressentir quand vous allez croquer dans un hamburger. Bon, il y a des personnes qui vont dire c'est super le hamburger, mais c'est quand même pas la même chose. On a quelque chose de vivant, ça nous explose en bouche. C'est vraiment, c'est la vie, quoi. Et plus vous allez consommer des aliments comme ça, c'est pas grave. Si vous commencez une semaine, vous trébuchez, vous retombez dans les paquets de pâtes, les gâteaux, enfin tout ce qui n'est pas physiologique, c'est pas très grave. Vous allez reprendre. Il faut pas se flageller. Non. Mais y aller progressivement à son rythme, faire des jus de légumes si on peut, c'est quelque chose que beaucoup de gens font ici, même s'ils n'ont pas d'extracteur, ils font ça au blender, au mixeur, pardon. Et y aller petit à petit parce que de toute façon, cette nourriture vivante va appeler de la nourriture vivante derrière. Et on va se rendre compte à un moment donné que notre regard va complètement se détourner d'un certain type d'alimentation parce que ça va rien nous dire, quoi, mais vraiment rien. Et puis de temps en temps, on est dans un contexte social ou pas forcément, et puis on a envie d'une bonne part de pizza ou d'un bon gâteau, et puis on le fait avec joie, surtout pas avec culpabilité, parce que là on est à l'intérieur de l'organisme, ça va pas bien fonctionner derrière, parce qu'on va mal digérer, mais le tout En fait, ce que disait Linda, elle prenait son exemple, c'est vrai que la majeure partie de notre alimentation doit être constituée d'aliments physiologiques. Voilà, des légumes, des fruits, des noix, des céréales germées de préférence, des algues, des produits comme ça. Et puis, à côté, eh bien, il y a les autres aliments. Mais notre base, elle doit être nutritionnellement parlant riche.
Voilà. J'entends. Et d'ailleurs, on a Lucie, lui, qui réagit en disant « Accepter l'idée de transition pour éviter la friction. » Effectivement, émotionnellement, si tu, Claire, tu parlais de culpabilité. Et il y a aussi Yolande Casimiro qui dit « Le cerveau accepte de changer les habitudes après 21 jours de pratique environ. Ne serait-ce pas une belle opportunité d'être en confinement pour peut-être partir et démarrer un challenge ?» On démarre un challenge de 21 jours. Je sais qu'en France, le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. Et donc, est-ce que ce ne serait pas une belle opportunité de partir un challenge au moins de 21 jours pendant ce confinement? Et si on devait le faire, par quoi nous devrions commencer?
Alors, moi, je ne suis pas grande fan de challenge. Je considère que chacun doit agir par rapport à lui-même. Il faut que le déclic vienne. On ne peut pas chercher à imposer. Et comme je le disais, ça se passe dans la tête. Il faut déjà une prise de conscience. Mais si vous voulez faire quelque chose, en Ayurveda, on recommande de manger en fonction de son estomac, pas en fonction du réveil. Et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit au départ. On est censé être connecté à sa nature intérieure.
À la notion de faim.
Pas à la société. Donc, l'Ayurveda recommande de manger quand on sent la faim de l'estomac. Donc, ce que vous auriez pu faire chez vous pendant le confinement, c'est au lieu de sauter sur le repas tout de suite à votre réveil, essayez de boire, vous buvez, vous pouvez boire de l'eau chaude, de l'eau tiède, mais d'attendre que la faim apparaisse réellement. Et ça, ça va vous aider en fait à vous renouer avec votre corps et de réapprendre ce que c'est que la sensation de faim, parce qu'en Ayurveda, on considère que c'est quand on a faim que le corps est en capacité de digérer. Vous aurez beau manger les meilleurs aliments du monde, si votre corps n'est pas en capacité de les digérer, vous n'allez pas pouvoir en tirer les nutriments. Donc, l'Ayurveda dit de manger seulement quand on a faim et la faim de l'estomac, pas la faim de la tête, parce que la faim de la tête, c'est l'envie de manger. Donc, ça serait déjà une première chose. Et la deuxième chose, ça serait d'arrêter de boire de l'eau glacée. En Ayurveda, on dit que l'eau glacée, ça ralentit le métabolisme et donc ça va aussi ralentir nos défenses immunitaires. Tout ce qui est froid, en fait, le corps, il fonctionne à 37 degrés. Et donc, quand vous mettez du foie dans votre corps, vous êtes en train de le mettre en crise de panique. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Au secours! Donc, on ne le sent pas tout de suite, mais à force de le faire régulièrement, vous ralentissez votre métabolisme. Et qui dit métabolisme ralenti, dit que vous allez vous encrasser, vous allez stocker les graisses. Vous avez vu quand vous mettez de la graisse dans du foie, ça fige. Ben, ça ferait à peu près la même chose dans votre corps. Donc, deux petits conseils ayurvédiques, manger quand on a faim, éviter l'eau glacée et si possible de l'eau tiède parce que l'eau tiède booste et accélère les défenses immunitaires et le métabolisme.
Super Linda, merci beaucoup. Est-ce que Claire, tu aurais deux, trois conseils que la naturopathie pourrait nous enseigner et qu'on pourrait partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui?
Alors, si on revient sur le phénomène de la peur, il y a des méthodes très très simples qu'on peut faire chez soi de respiration profonde. Ça nous permet de. C'est gratuit, ça fonctionne très très bien, c'est super efficace. Et vous pouvez aller voir, c'est de plus en plus connu, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube la cohérence cardiaque. Et vous avez des exercices comme ça. Alors, il y a une balle qui évolue le long d'une courbe et qui en fait nous permet, en la suivant, d'inspirer et d'expirer, et cette respiration va nous permettre d'être en cohérence avec les battements de notre cœur et va nous permettre de nous apaiser. Le souffle, c'est la vie. Donc on est souvent en sous-respiration, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Donc, c'est 5 minutes, 3 fois par jour, le matin au réveil, le soir au coucher, qui sont des moments clés parce que le matin conditionne la journée et le soir va conditionner une bonne nuit de repos. Et puis, on peut le faire une troisième fois, mais on peut pratiquer ça aussi quand on est en moment de panique. Donc ça, c'est quelque chose vraiment c'est un super outil. Voilà, la cohérence cardiaque de David Hoher, du docteur David Hoher. Et ce qu'on peut faire aussi, voilà, il y a la pluie qui arrive, ce qu'on peut faire aussi, c'est de se masser. entre nous. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de massage pour se masser entre nous. Je ne parle pas d'un massage en profondeur, hein. Attention, je parle d'un massage en douceur pour décontracter, pour relaxer, pour avoir du contact aussi. Alors, si on est tout seul, ben, on peut se masser. On peut se masser les jambes, on peut se masser les pieds, on peut se masser le crâne, on peut se masser le visage. C'est moins sympa que quand on est à deux, mais en tous les cas, ça, c'est très, très apaisant aussi. Alors, on peut aussi, si on a des huiles essentielles à la maison, respirer des huiles essentielles, comme la lavande, par exemple, qui est très apaisante, l'orange douce. Donc ça, ça va nous permettre de... Ben voilà, tout de suite, on va faire retomber la pression. Alors, ce sont des petites recettes qui fonctionnent bien et qu'on peut répéter voilà, tout au long de ce confinement et hors confinement. Voilà. Et puis pensez aussi peut-être plutôt que d'être dans la peur, pensez à ce qu'on a envie de faire de notre peau, de nos vies. Parce que c'est sûr que là on est bousculé, hein, on est ébranlé par ce qui se passe dans nos vies intimes, dans nos vies professionnelles. Mais justement, c'est l'occasion aussi d'inventer autre chose.
De, bien entendu, c'est l'occasion parfaite
à ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qu'on veut faire. Mais oui, il y a des gens qui se disent, bah là, aujourd'hui, moi, mon boulot, j'y retournerai pas. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et il y a des gens qui n'ont pas le choix, je vais mettre des guillemets autour. Mais fondamentalement, on est ici pour faire des choses, pour s'accomplir dans cette vie.
J'entends donc, bien. Donc, merci beaucoup, Claire. On note la notion de la respiration. Oui, le timing, on commence à dépasser un tout petit peu, mais c'est juste que c'est super intéressant. Effectivement, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec HumanSync, notamment pour la gestion du stress, mais pas que. Et c'est une technique qui est largement utilisée, notamment pour les pilotes de chasse ou pour les astronautes qui sont soumis à des grandes... qui doivent travailler et être très efficaces dans un environnement sous stress. Donc effectivement, et quelque chose que je voulais partager avec vous tous,
on t'entend moins bien.
Un monsieur qui s'appelle Wim Hof et ce qu'on appelle le Iceman, oui. l'homme de glace, et qui utilise énormément la respiration.
On t'entend plus très bien.
Moi, j'entends.
D'accord. Et donc, en fait, qui va utiliser la respiration pour prendre contrôle de son mental et qui va prendre contrôle aussi de son corps. Et je trouve ça fascinant parce que les médecins se sont vachement intéressés à lui parce que c'est un homme qui a battu des records assez fous. Il a fait deux fois l'ascension de l'Himalaya en short, comme on peut voir à l'écran, juste avec un short et pieds nus. Il a fait plusieurs marathons au pôle Nord. Et donc, il a repoussé les limites de ce qu'on pensait que le corps était capable. Et la communauté scientifique s'est intéressée à ce personnage, qui a d'ailleurs un jumeau identique. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une mutation d'un gène particulier. Et il enseigne la méthode Wim Hof, où les scientifiques ont découvert qu'en fait, on est peut-être capable de prendre contrôle par la pensée et la respiration sur les systèmes parasympathiques, sur des systèmes a priori qu'on pensait autonomes. Et donc, c'est avec HumanSync et l'équipe chez nous en interne, on pratique la méthode Wim Hof qui consiste à faire des exercices de respiration. Et je sais que Linda n'était pas friande du challenge, mais c'est un jeu que je recommande. C'est le challenge de la douche froide. Donc, la douche froide, sur des courtes périodes de temps, a un effet très positif sur l'organisme, dans le sens où ça va booster en fait votre métabolisme, l'organisme. Alors, ne le faites pas si vous êtes malade, parce que c'est quand même un stress pour l'organisme. Mais si vous êtes en pleine santé, faites-le, c'est super vivifiant. Et c'est un challenge. Pour l'esprit, c'est tous les jours de faire quelque chose qui est difficile et qu'on n'a pas envie de faire. Quand on finit par le faire et qu'on arrive à aller jusqu'au bout, on a un immense sentiment de fierté. Et c'est fascinant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire là-dessus. Ça me fera plaisir de partager plus longuement mon expérience personnelle avec vous tous. C'est déjà l'heure de se quitter. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous, Linda et Claire.
Merci, merci, c'était un plaisir aussi.
Si vous avez, vous qui nous suivez en commentaire, si vous avez des questions, si vous voulez poursuivre la discussion, soumettre d'autres thèmes ou vous voulez simplement même participer à ce live post-café avec Humans Link, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email qui s'affiche ici, info@humanslink.com. Je rappelle, le but de ce live et de Humans Link est de créer les organisations dont l'humanité a besoin pour que nous puissions vivre ensemble un monde fait par l'homme, pour l'homme, en harmonie avec la nature, comme on l'a vu, être capable de comprendre les mécanismes de santé, être autonome, avoir une approche globale, utiliser l'équilibre avec son environnement. N'oubliez pas, favoriser l'entraide et la solidarité. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci à tous. On se voit demain pour un autre live. Passez une belle journée.
Merci.